You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Les grands titres de ce dimanche, le siège de la Sunshine Coast au Queensland. Un homme a été arrêté et inculpé de meurtre d'une jeune fille de 16 ans. Les consommateurs en Australie auront à partir de ce dimanche plus d'informations sur la culture et la production de leurs aliments avec un système d'étiquetage alimentaire en vigueur. La France est en quart de finale de la Coupe du Monde après sa victoire contre l'Argentine. Le siège sur la Sunshine Coast impliquant un homme que la police voulait questionner sur la disparition d'une fille de 16 ans, Larissa Baby, et dont le corps a été retrouvé dans un baril, a pris fin. L'homme en question s'est rendu à la police et il a été inculpé de meurtre de la jeune fille. La police antiterroriste a accusé un homme d'infractions liées au terrorisme après un raid hier matin à Brisbane. La police allègue que l'homme de 20 ans s'est préparé à se rendre en Syrie pour participer à des activités liées au terrorisme. Il a été placé en détention et comparaîtra devant un tribunal demain, lundi. Les taux de pénalité pour le travail du dimanche et les jours fériés vont chuter de 10 à 15% dès ce dimanche pour les personnes qui travaillent, surtout dans le secteur pharmaceutique, de l'hospitalité et du commerce. Ce sont les deuxièmes réductions de salaire sous le gouvernement de Malcolm Turnbull. Le personnel pharmaceutique va perdre en moyenne 3 000 $ par an. Brendan O'Connor, le porte-parole du Labour sur les questions d'emploi, déclare que les travailleurs affectés vont souffrir économiquement. La chef adjointe du Parti libéral, Julie Bishop, déclare que la décision du chef de l'opposition, Bill Shorten, sur les taxes sur les sociétés va hanter les travaillistes le jour des élections. Elle pense que Bill Shorten a compromis son leadership au sein du Labour.
It was a huge blow to Bill Shorten yesterday to have to backflip on an announcement he'd only made a couple of days before. It shows that his judgment is flawed and that his party room don't have confidence in his judgment.
Julie Bishop, la ministre des affaires étrangères en Australie. Mais la chef adjointe du Labour, Tania Plibersek, déclare que le changement de position du leader est raisonnable.
The decision yesterday to have a $50 million threshold for the business tax cuts is a sensible decision. That means 99% of businesses will get a tax cut and 100% of businesses will keep any legislated tax cut.
Tania Plibersek, chef adjointe du Parti travailliste. Les consommateurs en Australie auront plus d'informations sur la culture ou la production de leurs aliments en Australie après l'entrée en vigueur d'un nouveau système d'étiquetage alimentaire ce dimanche. Et à compter à partir de ce 1er juillet, les fabricants doivent se conformer à une nouvelle norme qui comprendra plus de détails sur l'origine des ingrédients. Les nouvelles étiquettes entrent dans 4 catégories: cultivés dans, produits dans, fabriqués dans et emballés en. Le Consumer Watchdog a averti les entreprises qu'il vérifierait quelque 10 000 produits alimentaires pour s'assurer qu'ils sont conformes à la loi. La coalition gouvernementale met un système de contrôle sur les parents qui refusent de vacciner leurs enfants en retenant les paiements de soutien familial dans des changements qui prennent effet dès ce dimanche 1er juillet. Dans le cadre du programme No Jab, No Pay, les versements de la prestation fiscale pour les familles feront l'objet d'une réduction de 28 $ par quinzaine pour chaque enfant non vacciné. Le gouvernement a fourni 14 millions $ pour des vaccinations gratuites dans son budget de 2017-2018. Des exemptions ont été accordées pour les enfants ayant une immunité naturelle et pour lesquels la vaccination peut s'avérer dangereuse. La police fédérale australienne et des membres du personnel de la défense déployés en Thaïlande pour assister dans les recherches de 12 garçons et de leur entraîneur disparus depuis une semaine dans une cave inondée à Chiang Rai. Les ministres australiens de la défense, des affaires étrangères et de l'intérieur ont déclaré conjointement que l'Australie aidait le gouvernement thaïlandais et l'armée thaïlandaise dans les opérations de secours. Un journaliste mexicain a été assassiné dans l'état de Quintana Roo, dans le sud du pays, dans le dernier cas où un journaliste a été tué avant une élection présidentielle. Les médias locaux ont rapporté que le journaliste avait été abattu dans un bar vers 22h vendredi. Les électeurs, je rappelle, se rendre aux urnes ce dimanche avec Andrés Manuel López Obrador, largement considéré comme le gagnant. Les élections mexicaines ont été l'une des plus violentes de l'histoire moderne, avec des dizaines de politiciens tués dans tout le pays. Alain Musset est professeur à l'école des hautes études en sciences sociales et spécialiste du Mexique. Il est sur Radio France Internationale.
Les relations seront compliquées avec Trump parce que il y a plusieurs sujets de contentieux. Le problème du mur frontalier, le problème de la renégociation du traité de libre-échange avec le Mexique et le Canada, et le problème avec les migrants, la séparation des familles, le scandale international qui s'est mis en place à cause des mesures prises par la Maison-Blanche. Donc de toute façon, les relations seront compliquées. Mais ce qu'il faut voir, c'est que des trois principaux candidats, c'est celui qui va s'affronter de manière la plus directe avec Donald Trump. Et en plus, c'est quelqu'un qui est capable aussi d'avoir des prises de position dures et parfois à l'emporte-pièce. On risque là d'avoir des clashs, mais il ne faut pas oublier une chose qui est très importante, c'est que le Mexique, ça compte pas beaucoup vis-à-vis des États-Unis. Donc, il va y avoir évidemment des tensions très fortes, mais je ne vois pas comment le Mexique pourrait réussir à imposer ses vues, même si, et c'est un des scénarios les plus probables, le futur président s'allie avec le Canada pour essayer de peser un peu plus face à l'hyperpuissance américaine.
Alain Musset, spécialiste du Mexique sur les relations mexicaines-États-Unis après l'élection présidentielle de ce dimanche au Mexique. En France maintenant, avec le congrès du parti Les Républicains hier à Menton. Reportage Anne Souhaitemont pour RFI.
Aujourd'hui, nous avons offert une belle image de ce qu'est la famille des Républicains.
Pas de drame, cette fois-ci, c'est un Laurent Wauquiez incontesté qui clôture le Conseil national. En faisant adopter une déclaration de principe qui ne prête guère aux oppositions, fin de l'élargissement, révision de l'espace Schengen, en martelant que la lutte contre l'immigration illégale est la priorité numéro un de l'Europe, le patron de la droite a mis, une fois n'est pas coutume, tout le monde d'accord. Aimer l'Union européenne, c'est regarder lucidement ses défaillances.
Nous sommes la seule famille politique à être capable aujourd'hui, à la différence du Front National et à la différence d'En Marche, de concilier les deux mouvements dont l'Europe a besoin, la lucidité et la volonté de redonner un souffle à la construction européenne.
Une sorte de troisième voie destinée à rassurer les plus européens des Républicains, comme Valérie Pécresse, Alain Juppé et Jean-Pierre Raffarin. Gilles Platret est porte-parole du parti.
On a beaucoup dit que les Républicains étaient en capacité de s'écharper sur la question européenne, et certains d'ailleurs avaient mis un curseur sur ce thème en disant qu'ils en feraient un casus belli et éventuellement une volonté de départ. En définitive, il n'y a absolument rien d'irréconciliable.
Et pour cause, ce n'est qu'à la rentrée que les Républicains rentreront dans le détail des mesures et se poseront la question de la tête de liste.
Anne Souhaitemont pour RFI. Simone Veil et son époux Antoine entrent ce dimanche matin au Panthéon. La cérémonie a été organisée par l'Élysée avec les enfants du couple. Le président Emmanuel Macron rendra un dernier hommage à Simone Veil, comme l'explique Valérie Gasse pour RFI.
Simone Veil est la première déportée raciale à entrer au Panthéon et c'est un symbole sur lequel Emmanuel Macron devrait insister dans son discours. Lors de l'hommage qu'il lui avait déjà rendu aux Invalides, le chef de l'État avait décrit le choc provoqué par le décès de Simone Veil. Au Panthéon, Emmanuel Macron va évoquer le rôle historique de celle qui fut déportée à 16 ans à Auschwitz, qui survécut à la vie dans les camps et dont tous les combats furent ensuite marqués par ce drame indélébile. Cette cérémonie, ce discours ont une vocation pédagogique, explique-t-on à l'Élysée. Ils doivent permettre de transmettre la mémoire d'une époque dont les derniers survivants sont en train de disparaître. Emmanuel Macron veut aussi rappeler au travers du parcours de Simone Veil, qui s'est engagée pour défendre la cause des femmes et promouvoir l'Europe, que son histoire est celle de la France contemporaine. C'est une figure de la République que le chef de l'État va saluer, mais c'est aussi une femme qui a passé toute sa vie aux côtés d'un homme, son époux Antoine. Emmanuel Macron a accédé à la demande de la famille de ne pas les séparer et ils reposeront ensemble au Panthéon.
Valérie Gasse pour RFI. En Allemagne, les partis alliés de la grande coalition de la chancelière allemande Angela Merkel réclament une politique migratoire plus restrictive. Explication de Pascal Thibault pour RFI.
Après le sommet européen, Angela Merkel poursuit son marathon de négociations. Cette fois, la chancelière doit convaincre ses alliés bavarois que le compromis trouvé à Bruxelles est à même de satisfaire une CSU qui défend une politique migratoire plus restrictive. Le ministre de l'Intérieur et patron des chrétiens sociaux bavarois, Horst Seehofer, avait posé un ultimatum à Angela Merkel. Faute de solution négociée, il veut, dans les prochains jours, refouler aux frontières allemandes les migrants déjà enregistrés dans un autre pays de l'Union européenne. Dans un document envoyé à ses partenaires de la coalition, la CSU et le SPD, Angela Merkel précise que des engagements de principe lui ont été donnés par 14 pays qui accepteraient de reprendre les migrants déjà enregistrés sur leur sol. Mais l'Autriche et l'Italie, deux pays par lesquels des migrants gagnent l'Allemagne, ne font pas partie de la liste présentée par Angela Merkel. La CSU estime que le compromis de Bruxelles permet à Berlin de prendre des mesures unilatérales et de refouler ces personnes. Le porte-parole de la chancelière s'est empressé de préciser que les conclusions du sommet européen prévoient que seules des mesures négociées avec les autres pays sont envisageables. Le conflit entre CDU et CSU n'est donc pas encore complètement désamorcé.
Pascal Thibault pour RFI. En Afrique, avec le sommet des chefs de l'État de l'Union africaine, c'est ce dimanche à Nouakchott, en Mauritanie. Le sommet va durer 2 jours. Binta Diagne, RFI.
Pour le président Paul Kagame, c'est l'occasion de faire un point à mi-parcours sur l'état d'avancement des réformes institutionnelles, avec en ligne de mire l'application d'une taxe de 0,2% par chaque État membre sur des produits éligibles, afin de rendre l'institution moins dépendante des donateurs extérieurs. À ce jour, 23 États l'ont adopté. Nous avons déjà collecté 45 millions de dollars, se félicite le professeur Pierre Mokoko Mbonjo, chef de l'unité de mise en œuvre de la réforme institutionnelle. Autre chantier, et c'est le thème de ce sommet, la lutte contre la corruption. Les chefs d'État devront décider s'ils lancent ou non une enquête sur le fonctionnement du Parlement panafricain, sur celui du NEPAD et sur celui du Conseil consultatif de lutte contre la corruption. 3 structures pour lesquelles des audits ont révélé de nombreux dysfonctionnements.
Binta Diagne pour RFI. En Belgique, inauguration à Bruxelles d'un square, d'une place en hommage à Patrice Lumumba, le premier ministre du Congo indépendant, assassiné en 1961. Écoutez Moïse Esso, porte-parole du collectif Mémoire Coloniale, une des associations africaines qui souhaitait qu'un hommage soit rendu aux dirigeants anticolonialistes. Il est sur RFI.
Nous sommes fiers, Congolais, Africains, Belges, progressistes, de transformer en réalité le souhait de Patrice Lumumba, qui était d'enseigner avec fierté l'histoire universelle de lutte. On ne va pas se pâmer seulement sur cette place, puis se dire qu'on a atteint l'objectif final. Cette place n'est qu'une étape dans une lutte qui va beaucoup plus loin.
C'est pas un peu paradoxal de donner le nom de Patrice Lumumba à un square dans la capitale du pays qu'il a combattu?
Non, justement, c'est très très important. C'est une revanche symbolique de l'histoire. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé entre le 30 juin 1960 et le 30 juin 2018 pour que les autorités qui ont vilipendé Lumumba et ses compagnons Okito et Mpolo aujourd'hui acceptent de l'honorer dans une ville symbolique du pays qui a contribué à le faire assassiner? C'est une revanche de l'histoire. Ça veut dire qu'il est possible que des gens ou des descendants de gens qui ont commis certaines atrocités puissent le reconnaître. Pour nous, c'est une revanche symbolique extraordinaire.
On passe à la météo pour ce dimanche en Australie. Perth maximale de 21 degrés, Adélaïde 15, Melbourne 14, Hobart 13, Canberra 12, Sydney 17, Brisbane 23, Cairns 26, Darwin 33 et à Alice Springs maximale de 17 degrés. Un rappel des grands titres de ce dimanche. Le siège de la Sunshine Coast. Un homme a été arrêté et inculpé de meurtre d'une jeune fille de 16 ans. Les consommateurs en Australie auront à partir de ce dimanche plus d'informations sur la culture et la production de leurs aliments avec un système d'étiquetage alimentaire en vigueur. Et puis la France est en quart de finale de la Coupe du Monde après sa victoire contre l'Argentine.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.